tous. Bienvenue dans ce balado intitulé « La quête vers la sobriété » avec Robert Pichet et ses invités. Ben oui, je suis l'ex-commandant de bord, bien entendu. Tout le monde, je pense, peut relater les événements qui m'ont fait connaître. Il reste que je suis un malade. Je suis pris d'une maladie qui s'appelle l'alcoolisme. Et c'est de ce qu'on va parler dans le balado. La méthode que moi j'ai employée pour me sortir de mon alcoolisme et rester abstinent que je suis depuis 22 ans. Et ça, c'est basé sur des étapes. Et aujourd'hui, on parle de la deuxième étape. Je vous reviens dans quelques instants avec mes invités, qui est André LB et Éric L, dans quelques instants. Bonjour, bien c'est ça. On va commencer par lire la méthode, la fameuse méthode qui a aidé beaucoup d'alcooliques à travers le monde. On est recensé au-dessus de 2 500 000 présentement qui sont dans le système des associations anonymes et que grâce à cette méthode qui s'est supportée par les 12 étapes, on réussit à se sortir de ce marasme qui est l'alcoolisme, en tout cas de rester abstinent 24 heures à la fois. Donc, je vous lis la méthode comme suit. Ceux qui ne se rétablissent pas sont des gens qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se soumettre complètement à ce simple programme. Ce sont d'habitude des hommes et des femmes qui sont naturellement incapables d'être honnêtes envers eux-mêmes. Il y en a de ces malheureux, ce n'est pas leur faute, ils semblent être nés ainsi. La nature ne leur permet pas de comprendre, de mettre en pratique une façon de vivre qui exige une rigoureuse honnêteté. Leur chance de réussir se situe au-dessus de la moyenne. Il y a aussi ceux qui souffrent de graves désordres émotifs et mentaux. Mais plusieurs d'entre eux se rétablissent s'ils sont capables d'honnêteté. Les récits de nos vies révèlent, de façon générale, ce que nous étions, ce qui nous est arrivé et comment nous sommes maintenant. Si vous avez décidé que vous voulez ce que nous avons et que vous voulez tout faire pour l'obtenir, alors vous êtes prêt à prendre certaines mesures. Devant certaines de ces étapes, nous avons hésité. Ah, nous avons cru pouvoir trouver une méthode plus facile, plus douce. Mais ce fut impossible. Avec toute l'ardeur que nous avons, nous vous supplions d'être sans crainte et sincères dès le début. Certains d'entre nous ont tenté de s'accrocher à leurs vieilles idées, mais le résultat est nul tant qu'ils ne sont pas complètement abandonnés. N'oubliez pas que nous avons affaire à l'alcool qui est puissant, déroutant et sournois. Sans aide, c'est trop pour nous, en tout cas pour moi. Mais il y a une aide qui a tout le pouvoir, et cette aide, c'est Dieu. Puissiez-vous le découvrir maintenant. Les demi-mesures ne nous ont rien donné. Nous nous trouvions à un tournant de notre vie, nous avons demandé sa protection et son aide, et que nous nous sommes abandonnés à lui complètement. Et je dois vous dire qu'à la deuxième étape, qu'on va traiter aujourd'hui, va être le vif du sujet, j'ai demandé à mon invité Éric L. de la lire, s'il vous plaît.
Bonjour tout le monde, je vais vous lire la deuxième étape des 12 étapes des associations anonymes. Deuxième étape, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison.
Plusieurs d'entre nous se sont exclamés, c'est trop difficile, je ne pourrais y arriver. Avec raison, c'est pas facile, il y a un effort à faire et un chemin à parcourir. Ne vous découragez pas, personne d'entre nous n'a réussi à mettre en pratique ces principes à la perfection. Nous ne sommes pas des saints, loin de là. Ce qui compte, c'est que nous sommes disposés à progresser selon des principes spirituels. Les principes que nous avons énoncés sont des guides vers la croissance. Nous parlons de la croissance spirituelle plutôt que de la perfection spirituelle. Ça résume en gros notre méthode, qui est appuyée, comme je vous ai dit, par les 12 étapes. Et aujourd'hui, on va discuter surtout de la deuxième étape. Je devrais dire bonjour à mon invité qui est André LB. Bonjour André.
Bonjour.
J'ai une question pour vous autres, mes deux invités au point de départ. Comment qu'on fait pour s'apercevoir qu'on est alcoolique? Parce que les gens qui nous écoutent, ça ne veut pas dire nécessairement que se sont identifiés comme des alcooliques en partant. Qu'est-ce qui peut faire qu'un jour, tu réalises que tu as peut-être un problème de consommation et même d'aller jusqu'à penser que tu es un alcoolique? Moi, je le sais dans mon propre cas. J'ai consommé quoi? C'est une période de 30 ans dans mon ancienne vie, dans mon actif. Et jamais une minute, j'ai pensé que j'étais un alcoolique. C'est quand même bizarre. Pourtant, les lendemains de veille, qui ont été très difficiles après quelques jours à Rumba, j'aurais peut-être pu penser, même mon père, moi, il faisait partie des associations anonymes, puis il a parti des groupes d'associations anonymes dans son patelin. Donc, j'étais mis très, très tôt dans le processus. C'était quoi les associations anonymes? Puis pourquoi, quand j'ai eu moi-même le problème avec mon problème de consommation, je n'ai jamais pensé. Vous autres, qu'est-ce qui vous est arrivé pour penser un jour que peut-être que vous aviez un problème avec votre consommation? Ben en moi, passant, excuse-moi, Andréel, en passant, qui était la première étape de la semaine dernière, qui était d'admettre qu'on avait un problème à la consommation et qu'on avait perdu le contrôle de notre vie, c'était le sujet de notre premier balado.
Ben, le... Ah, ça, comment je pourrais dire? Ça a passé nécessairement par la première étape, là.
Ouais.
C'est sûr qu'on va parler de la deuxième, surtout, mais ça a été le réveil d'où je suis alcoolique, c'est de reconnaître, là...
Tu posais des questions?
Ben, je me posais des questions, oui. Moi, mon histoire a commencé, moi, en quatre murs, tu sais.
Ouais.
J'étais incarcéré, moi, à l'époque, dans un maximum... Puis avec plus d'espoir de sortir et...
Même encore là, t'avais pas de raison d'arrêter de consommer. T'avais plus d'espoir de sortir. Ta vie était comme mise sur un haut, ni plus ni moins, non?
Pas tout à fait. Mon désir... tu sais, l'humain a toujours l'espoir de ouais, l'espoir de s'en sortir, l'espoir... Il y a toujours une lumière...
D'améliorer sa vie.
D'améliorer sa vie.
Ouais.
Puis, c'est ça, là, un soir que j'étais en train de consommer dans ma cellule, ça m'a frappé, là, de dire, hey, c'est ça qui m'a emmené dans ma déchéance, c'est de la consommation d'alcool, puis toutes les autres substances qui pouvaient me qui pouvait modifier mon état mental, tu sais.
Ah, t'as raison de dire ça, parce que je sais que les statistiques sont là pour le parler, c'est pas moi qui l'invente. Ils disent que si tu continues à consommer avec un problème de consommation, il y a trois choses qui vont t'arriver. Hein? La folie, la mort ou la prison.
Exact.
Toi, tu t'es ramassé en prison, puis t'as réalisé ça, mais est-ce que t'avais déjà entendu parler des associations anonymes? Ou...
Oui, ben au début de... Si on veut dire, au début de mon incarcération, faut que je dise, là, pour me mettre en situation, c'est que ma première... Je peux une deuxième sentence que j'ai jamais fini la première, dans le fond.
OK.
Là, fait que c'est que la première m'a emmené jusqu'à un meurtre, puis sans rentrer dans les détails, l'alcool et la boisson étaient mêlés, là. Mais
oui, parce qu'on sait bien que quand on est en consommation, on prend des décisions suivies d'actions qu'en temps normal, si on n'avait pas ce problème de consommation-là, qu'on ne prendrait pas. Exact. Moi, je le sais. Je dis souvent que j'ai trois enfants et trois femmes différentes. Si j'avais pas eu un problème de consommation, je pense pas que ça aurait été un des idéaux de ma vie de faire trois enfants et trois femmes différentes. Mais le problème arrive au fur et à mesure, puis t'embarques dans le problème pensant que toi, tu l'as l'affaire, que tu vas gérer tout ça. Mais dans le fond... Quand tu sais dans ton cheminement d'abstinence que c'était pas vraiment correct de faire ça, c'est un peu ta manière à toi aussi.
Ben, moi, je me considérais comme une minute cocotte, là, qu'on appelle. Là, un presto.
Prêt à exploser.
C'est ça. Exact. T'sais, chaque problème rentrait, puis le seul moyen que moi j'avais découvert étant petit pour mieux acclimater ça, c'était de consommer. Ouais. Pour étouffer la douleur que j'avais. Le mal de vivre.
Non, on est tous, je pense que c'est standard chez les alcooliques.
C'est standard.
Ceux qui veulent se reconnaître dans ce qu'on dit, ben c'est un peu standard. Tu essaies de remettre à demain qui serait capable de gérer aujourd'hui. Mais ben moi, la base de ma question, c'était plutôt comme moi, je me souviens que moi, qu'il y a des matins, je me souvenais pas ce que j'avais fait la veille sur la consommation. J'avais des blackouts. Puis ça, c'est un des trucs, une des raisons que tu devrais commencer à dire, ben peut-être que j'ai un problème de consommation. Tu n'es pas obligé de dire que tu as un problème de consommation et de réaliser que tu l'as tout de suite, mais tu admets au moins que tu as peut-être un problème qui est la première moitié de la première étape.
Fait
que même quand j'ai des matins que je me souvenais pas ce que j'avais fait la veille, j'ai jamais pensé que j'avais un problème de consommation.
Non, ben moi, c'est arrivé, comme je disais tantôt, là, c'est quand tu réalises que t'es enfermé, t'as des possibilités de plus jamais ressortir, c'est là que tu réalises que, oh, il y a un méchant problème. Moi, j'ai pas rêvé ça, là. J'ai pas rêvé à ça quand j'étais petit cul, là, que je voulais finir mes jours enfermé, là.
Comme t'sais. Moi avec mes trois enfants. T'as pas,
exact.
T'as pas rêvé à ça, ben oui.
C'est ça, là. Je veux dire, à ce moment-là, c'est là que... Puis ça, c'est un des... pour les gens qui sont dans la même situation. Moi, c'est un des premiers... une des premières bases, c'est... justement de réaliser que t'as un méchant problème, tu sais, puis d'arrêter de nier, tu sais.
Non, mais pour le commun des mortels qui est pas entre quatre murs là, tu sais, toi c'est le fait d'être entre quatre murs. Même moi j'ai été entre quatre murs comme toi, tu sais, le monde le savent. Mais ça m'a jamais dit que j'avais un problème de consommation pour autant. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Ce qui m'a fait mettre en quatre murs, c'était ma consommation. Mais je trouve que tu es courageux de compter ça et de comprendre que c'est ça qui t'a amené à comprendre que t'avais un problème avec ta consommation.
Mais après, c'est le après là, qui devient intéressant, c'est de savoir c'est quoi tu fais avec le problème.
Ouais.
Tu sais, c'est soit tu restes dans ton problème, puis tu végètes.
Tu laisses aller. Pas, ouais.
Ou que tu te retrouves les manches, puis tu travailles sur ton problème.
Ouais.
Qui, dans le fond, qui tes émotions, tu sais. Moi, je parlais pas, j'étais complètement fermé comme une huître. J'avais des problèmes qui arrivaient de tout bas, de tout côté. Comment j'ai résolu, mais
T'as pensé à tout ça, réfléchi là-dessus, ouais.
Tu sais, je veux dire, ben là, je contaminais, puis je jouais du bras, puis ça veut dire, je faisais. Je faisais la loi dans où j'étais, là, tu sais.
Ouais, puis toi, Éricelle, tu sais, je comprends ce qu'il dit quand Carré, il dit, j'étais formé comme une huître, puis je parlais pas. Comment qu'on en rend compte dans meetings des associations anonymes, des gars qui veulent pas parler, qui sont gênés? Dernièrement, on est des uns, moi puis toi, là, dernièrement, puis, hein, il disait pas un mot, puis six mois plus tard, il était en avant, puis il discutait
puis,
avec tout le monde.
Il s'implique, puis c'est ça.
Exact.
Mais juste pour revenir, qu'est-ce que tu disais, que ça nous amène à la, tu sais, en prison, en psychiatrie? Ou ben non, à la mort. Moi, des années 90-2000, moi, j'ai touché à ça. J'ai été en dedans. J'ai été en psychiatrie. Ben, toutes les fois que je ressortais, je reconsommais.
Ben ouais.
J'avais pas compris encore. Puis même en 2013, je suis décédé de 7 AVC. Ils m'ont ramené là, à la vie, tout ça. J'étais 3 ans paralysé. Mais en 2018, j'ai rechuté.
Malgré tout ça.
Malgré, ça faisait 4 ans que je consommais pas. J'avais pas compris encore que j'avais un problème avec l'alcool après une trentaine d'années. C'est seulement qu'en 2000, comme j'ai compté la semaine passée, en 2021, ma dernière thérapie, que là, j'ai admis. On parle de la première, là. Puis,
t'as admis, t'avais un problème.
Ouais, mais il faut dire que toutes les fois que j'étais allé en prison ou en psychiatrie ou ces choses-là, je vais revenir à la deuxième étape. Moi, j'ai toujours cru qu'il y avait quelque chose de plus fort que moi dans la vie. Spirituellement, là, j'ai toujours cru ça. Puis si je suis encore vivant aujourd'hui, c'est parce que c'est pas par ma grâce à moi. C'est
donc,
par la grâce d'une force supérieure.
Le premier principe en partant, quand on écoute Éric puis André, le premier principe, c'est d'admettre.
Exact.
Mais de réaliser, peu importe la raison, toi, c'est entre quatre murs, c'est toi, c'est après 14 thérapies, puis 13 thérapies, que là, tu as compris ça. Et tu l'avais déjà pensé, il y a une petite graine qui s'était faite dans ta tête, dans tes thérapies, puis de comprendre ça. Puis moi, qui ai rentré en thérapie sans savoir que j'avais un problème de boisson, c'est là que moi, quand ils ont parlé de perdre le contrôle de la vie, qui est la deuxième moitié de la première étape. Mais ça, c'est bien beau, on admet, mettons. Mettons qu'on comprenne la raison que tu viens de nous expliquer, André, toi aussi, Éric. Mais la deuxième étape, là,
la deuxième étape.
On est venu à croire que... Tu sais, puis tu ne te demandes pas de croire.
Non.
Tu es venu à croire.
C'est ça. Hein? Je suis venu à croire qu'il y avait
quelque chose de plus grand. Il y en a, même à la deuxième étape, ils ne prononcent même pas le mot de puissance supérieure. Il y a quelque chose de plus grand que toi.
Ouais,
mais c'est quoi, ça? Comment t'as réalisé, toi, André? André?
Moi, c'est...
le plus grand que toi, c'est... Comment t'as vu ça?
Moi, j'ai fait la première et la deuxième étape pratiquement en même temps, comme je disais tantôt.
T'étais un peu forcé, ouais. La situation t'amenait à le comprendre un peu mieux.
Puis, pour la deuxième étape, moi, je suis un autochtone, OK? Je suis de la nation Huron, fait que la nation Dieu... Ben, j'ai parlé à mon créateur. Je suis très croyant.
Dans toute la littérature que Bill et Bob, les deux membres fondateurs des associations anonymes, ils parlent toujours de la rigoureuse honnêteté. Puis c'est tel que tu le conçois, cette force supérieure. On va en parler un petit peu plus loin, puis plus en détail à la troisième étape. Mais là, je suis content que tu amènes ce point-là.
Fait que là, moi.
Fait que toi, ta puissance supérieure ou ton Dieu qui parle dans toute la documentation, Toi, c'était ton créateur.
Oui, mon créateur.
Qui vient puis... un peu de tes racines, de fait que tu es autochtone.
Oui, oui, c'est ça. C'est,
ben, c'est bon, mais ça. C'est, j'aime ça,
mes,
c'est bon.
C'est ça, mais... c'est ça. Moi, j'ai... La manière que j'ai pu... bon, je croyais déjà à mon créateur, mais j'ai demandé à lui, ce fameux soir-là, j'ai dit, « Hey, demain matin, là, je ne veux plus contaminer, moi. Mm. » J'ai dit, « Enlève-moi cette soif-là, enlève-moi le toujours le sentiment d'être perdant, puis de puis sinon, on va aller te rejoindre. On va aller te parler entre tes deux yeux. On va te parler entre tes quatre yeux, là. »
Ah, ouais. Mais il reste toujours que quand tu fais une demande de même... Il faut que tu sois sincère quand même.
Très sincère.
Il faut que tu sois sincère très avec toi-même. Sincère. Mais comment t'as fait pour aller chercher cette honnêteté, cette sincérité?
Ben, c'est ça, le lendemain...
Quand on continue de regarder ton contexte, entre quatre murs, tout seul de ta gang, ça prend une force de caractère quand même. Ça prend l'envie de s'en sortir dans une situation qui te porte à consommer, ni plus ni moins.
Exact.
Pour oublier le mal-être que t'es présentement impliqué entre quatre murs.
Le déclic s'est fait le lendemain, quand je me suis levé, j'avais plus le goût de contaminer.
Carrément.
Carrément.
Excuse-moi,
pour donner une anecdote.
Mais comment ça s'est passé dans ta tête? Comment t'as fait pour sentir que vu que t'avais fait une demande?
Moi, je me levais le matin, là, puis j'étais toujours en contamination. Moi. Je me levais le matin, je m'égrenais un joint, là, puis à l'époque, je me faisais rentrer du stock.
Puis, et tu consommais?
Je contamais, puis je faisais ma propre boisson, fait que...
Il y a de baboche.
Ben oui, ben, moi, j'ai dit là, c'était un peu meilleur, là, c'était...
Non, puis on sait que, ben, moi, j'en sais par expérience, faire de la baboche en prison, c'est... faut que tu sois un petit peu menteur, un petit peu voleur, un petit peu manipulateur, un petit peu de tout. Quelles sont les caractéristiques, habituellement, d'un alcoolique toxicomane?
Exact.
On dirait que c'est un prérequis.
Hein? C'est carrément un prérequis.
Mais l'affaire, ben... c'est que tu t'en souviens, tu t'en rends pas compte quand t'es dedans.
Non.
Toi, tu penses que c'est normal.
Tu l'as, l'affaire.
Et tu penses que c'est ça, tu penses que t'es normal, que tu l'as, la patente.
C'est ça, tu sais, puis les autres, t'admets ou t'envies, puis là, t'as les gens ben, qui sont jaloux,
qui t'en veulent.
C'est vraiment un micro-monde, là.
Mini-société.
C'est une mini-société, puis comme qu'on dit souvent, la personne reproduit le même schéma en dedans que dehors, là. C'est pas parce que t'arrives en dedans... que là, tout d'un coup, t'étais un gars de rette, là.
Non.
Si t'étais tout crache dehors, tu l'as encore en dedans,
c'est
là.
C'est ça,
là.
C'est un peu la différence quand tu te rétablis de l'alcoolisme ou de la toxicomanie.
Exact.
C'est que t'es le même gars, mais t'as plus le même comportement. Ton comportement de gars que t'étais dans l'ancien temps, dans ton ancienne vie, si on peut appeler ça comme ça, maintenant, t'es le même gars. Comme moi, je pense souvent dans mes partages que j'ai trois traits de caractère qui m'ont été donnés à ma naissance. Je suis hypersensible... impatient et extrémiste, je suis encore aujourd'hui parce que ça m'était donné dans mon trait de caractère.
Exactement.
Mais aujourd'hui, vu que je le sais que j'ai ces trois, quatre caractères-là, je peux les gérer. Puis la méthode et les 12 étapes m'aident à la gérer parce que je suis encore, tu sais, je suis encore mis à l'épreuve dans mes tâches journalières.
C'est ça. Ben oui, c'est tout à fait normal.
Puis la deuxième étape, t'es...
Bon, la deuxième étape, c'est ça. C'est une fois que...
Quand tu réalises que
tu viens à croire, ben c'est ça, le lendemain, moi, je me lève le lendemain, je ressens pas le besoin de me rouler un joint comme d'habitude.
Wow. Mais est-ce que tu avais lu déjà les étapes? Avais-tu déjà été...
Je connaissais le mouvement.
Tu connaissais le mouvement déjà?
Ma première sentence, moi, j'ai...
T'avais déjà entendu parler des étapes.
Exact, j'étais à Archambault à l'époque, et... Au début de ma sentence, l'établissement était encore maximum dans ces années-là. Et on allait faire du meeting en haut, puis moi, je jugeais tout le monde dans la salle.
Ah ouais, ben ça
si, ben...
on parle de prérequis, je pense que juger les gens, c'est un autre prérequis.
Tu sais, fait que au départ, tu sais, voir si tu vas prendre ton samedi soir pour venir me voir pour toi en dedans. Puis je croyais pas que ça marchait, là. Moi, les alcooliques anonymes, t'as tout défonné, là. Je pouvais pas concevoir qu'une partante puisse faire du bénévolat, aller soutenir un autre alcoolique en dedans des murs.
Gratuitement, puis bénévolement.
Ben oui, c'est ça. Là, ouais. Moi, j'avais de la misère à
consommer. Il doit chercher ça, quelque là. Chose, ce gars-là, tu vois.
C'est ça, là. Ah ouais. Il y a une crasse en dessous du tapis, là.
Ah ouais, c'est ça. Mais c'est pour te montrer comment qu'on est fait. Hein?
Exact, là.
Quand tu es dans ta consommation, pour te montrer comment qu'on est fait.
C'est ça.
On est tous un petit peu de la même manière, à des stages différents, mais on est tous un petit peu de la même manière. Garde ton idée, parce qu'on va revenir après la pause, puis on va continuer de parler de cette fameuse deuxième étape qui était venue à croire que quelque chose de plus supérieur à toi peut te rendre la raison. À tout de suite. Nous sommes de retour avec mes deux invités, André LB et mon partenaire des 400 coups qui s'appelle Eric L. Et aujourd'hui, on parle bien entendu de l'alcoolisme, qui est ma maladie et la maladie de mes deux invités. Et on vous compte comment que nous, on en est venu à comprendre qu'on avait un problème de consommation et qu'est-ce qu'on a fait pour s'en sortir. Tantôt, on a lu la méthode qui est la base de notre établissement, qui est supporté par 12 étapes, et chaque balado va avoir rapport à une étape, et on est rendu à la deuxième étape, et c'est ce qu'on est en train de discuter avec mes deux invités. Moi, tu disais que, moi, ce que j'aimerais que tu nous expliques un petit peu plus en profondeur, c'est bien beau que, en dedans, tu as trouvé, au bout de 16 ans, que tu disais, bon, ben là, il faudrait bien que j'arrête de consommer, parce que c'est la consommation qui m'a emmené ça. Ça prend une force de caractère pour t'identifier à ça en partant, et que tu demandes à ta force supérieure, toi qui étais ton créateur, vu que tu étais autochtone, ce que tu me comptais tantôt, que je trouve que c'est un bon exemple pour dire au monde, tu cherches une force supérieure telle que tu le conçois, toi tu le concevais selon la manière que tu étais élevé quand tu étais plus petit. Mais le fait que tu es venu à croire que cette force supérieure-là qui était ton créateur pouvait te redonner la raison, dans les circonstances que tu étais entre quatre murs et une sentence que tu pensais jamais sortir de prison, moi, je voudrais que tu m'expliques un peu plus. Bien beau que tu te lèves le matin et tu dis, le matin, j'ai pas envie de consommer parce que hier, je lui ai demandé sincèrement de m'aider parce que tu as réalisé que tu avais un problème de consommation et que tu avais perdu le contrôle de ta vie. Que je rappelle aux gens que c'est la première étape. Mais que tu décides de toi-même, sans avoir de personne pour t'aider, que tu as compris que tu pourrais venir à avoir quelque chose de plus grand que toi pour t'en sortir.
Exact.
C'est quoi ton cheminement? Que tu as pensé, comment ça en est venu? Parce qu'il y a bien les auditeurs aujourd'hui qui ne savent peut-être pas qu'ils ont un problème de consommation. Ils savent que ça ne va pas trop bien dans leur vie, puis ils ne sont pas capables de relier leur problème de vie avec leur problème de consommation parce qu'ils ne pensent pas qu'ils ont un problème de consommation, comme nous, on ne pensait pas avant qu'on en avait un.
Exact.
Tu vois? Mais plutôt que de toi-même, tu as décidé de te prendre en main. C'est quoi le cheminement pour en venir à cette deuxième étape?
Moi, ça a été de changer complètement mon habitude de vie. Dès le départ, je m'étais fait une routine qui a été, bon, ben le travail, le boulot. Après ça, je me suis...
Entre tes murs, tu parles?
Oui, toujours. On parle toujours entre tes murs.
Puis t'avais une job entre tes murs, tu pouvais travailler.
Je pouvais travailler. J'ai fait plusieurs travails, là. Puis j'ai fait plusieurs formations. T'allais chercher une formation comme boulanger-pâtissier, comme soudeur, comme peintre en électrostatique. Wow. J'en ai plusieurs d'autres. Là, j'ai
une amour. La prochaine fois qu'on va se rencontrer, on peut te barrer des croissants. Hein?
Peut-être.
Peut-être. Hein?
Puis, c'est ça.
On va voir si j'ai passé avec une bonne note.
Puis, faudrait aussi que, étant très jeune, jamais dessiné, jamais. Fait que je me suis mis au dessin, je me suis mis. Quand j'étais adolescent, dans un centre d'accueil, parce que j'ai fait du centre d'accueil aussi, j'ai appris à travailler le cuir.
Fait que finalement, tu t'es trouvé des passions en dedans.
C'est ça, je me suis trouvé des passions, puis je me suis investi là-dedans. T'sais? Fait que au lieu d'aller traîner dans le gymnase,
c'est ça.
Ou que c'était la source de,
la place, la place pour consommer.
La place pour consommer, pour la gamique.
Ouais, c'est ça.
Si tu voulais avoir de l'action, t'allais au gymnase, puis. C'est sûr qu'il y avait de l'action à un moment donné ou l'autre, mais tout ça pour revenir, c'est que j'ai investi, moi, mon temps dans les AB. Puis le soir, quand je revenais, puis dans ma rangée, je demandais au gardien de fermer ma porte jusqu'au lendemain matin.
T'étais dans une cellule seule?
Oui. En maximum, c'est rare, les cellules à deux, là.
Ouais.
Mais c'est ça, j'ai établi une routine que j'ai pas dérogée.
Wow. Mais après par contre, ça... Par contre, je suis d'accord avec toi. Juste moi prendre une petite pause. Je suis d'accord avec toi que oui, tu t'es embarqué une routine. Puis c'est vrai que quand tu décides d'arrêter une habitude, il faut que tu t'en trouves un autre pour compenser.
Exact.
C'est comme le gars qui essaie d'arrêter de fumer, puis il fumait une cigarette quand il prenait son café le matin, mais il faut pratiquement qu'il arrête de prendre du café. Tu comprends? Parce que sans ça, le café va l'amener à refumer.
Je l'ai fait, ça aussi.
C'est ça. C'est bon pour ça. Mais il reste toujours que tu changes ton habitude de vie, comme tu dis.
Exact.
Mais on sait que, malgré tes temps de quatre murs, pour nous qui étaient libres quand on a décidé d'arrêter de consommer, qu'on était en dehors, il reste toujours que les autres sont autour de toi puis te voient échanger.
Exact.
Et ça fait des jaloux. Comme moi, des collègues de travail, mes amis, comme mes amis qui m'invitaient chez eux parce qu'ils savaient qu'on allait prendre un coup. Mais ça, c'est tout inconscient. Le gars t'invite chez lui un samedi soir parce qu'il sait qu'il va pouvoir boire parce que toi, tu bois.
Exact.
Puis il va pouvoir dire à sa femme, « Bien, Piché, il était au souper hier soir, c'est pour ça que j'ai bu. » Lui, j'étais son excuse pour prendre un coup.
Ça lui donne une raison.
Puis moi, je disais à ma femme, « Bien, je l'ai soupé chez un tel, mais tu sais que lui, s'il boit, mais moi, je donnais la même excuse à ma femme. C'est pour ça que je suis rentré tout croche à soir. Tu comprends?
Ben oui, contaminé.
Mais ça fait des jaloux. Puis, à l'extérieur, tu es obligé de laisser tomber certaines amitiés que tu avais basées sur la consommation sans te rendre compte que c'était dans la consommation.
Moi, que dans mon cheminement à moi, ça s'est fait naturellement, si je pourrais dire.
Ah ouais.
Par la force des choses, où que moi, j'avais pris un pas de recul face à des amis, face à bien des choses, c'est que en établissant ma routine, puis ça s'est fait naturellement. Là. Les gens qui étaient négatifs alentour de moi se sont tassés graduellement d'eux autres même. C'est quoi l'intérêt de rester proche d'un gars si la personne ne te suit plus?
Ben, non, mais lui, il va peut-être être jaloux parce que tu ne veux plus le suivre.
Non, j'ai pas vraiment eu ce problème-là.
Non,
là.
Non.
Oui, il y a eu des jaloux. Oui, il y en a qui ont essayé de m'enfarger. Mais c'est toujours de résister, de croire à comment je pourrais dire ça?
Avoir la foi à ton créateur. Qui peut t'aider.
Qui peut m'aider. Puis aussi des choix que tu prends.
Oui, mais il reste toujours que, malgré tes temps de quatre murs, puis malgré que bien souvent, il y a du monde qui sont libres, qui sont en quatre murs dans leur tête, il reste toujours que c'est pas facile d'avoir la foi tout le temps. Et la rechute, on sait tout le temps que la rechute, les statistiques sont là pour parler. C'est pratiquement une affaire comme 60 % de rechute après la première thérapie. À quelque part, c'est pas facile parce que, comme je te dis tantôt, faut que tu changes pratiquement ton cercle d'amis. Que c'était des amis de consommation, que tu pensais que c'était des vrais amis, mais dans le fond,
exact.
C'était là parce qu'eux aimaient consommer, puis toi, t'aimais consommer avec eux. Mais là, t'es dans un milieu un peu fermé. En changeant tes habitudes, tu peux pas dire, demain matin, m'a déménagé dans un autre
non,
ville. Tu sais, puis m'a prendre un autre job, puis m'a rentré abstinent dans l'autre job. Le monde va penser que je bois pas en partant. Parce que là, dans ton ancien job, le monde savent que tu consommais, puis tu consommes plus.
Parce
que toi, Je sais pas, toi...
Moi, ça m'a... Qu'est-ce qui s'est passé à travers tout ça? C'est que c'est des nouvelles amitiés qui s'est créées.
Mmh. Ah oui.
Des gens positifs. Des gens que j'allais pas voir parce que moi, j'étais tout croche. J'allais pas voir les autres.
C'était des têteux.
Ben, ouais, c'est ça. Ben là, les autres, en voyant mon comportement changer, ben, il y a des gens positifs qui se sont collés à moi. En faisant du meeting, en m'impliquant dans le groupe. T'sais, en prenant des tâches, moi j'ai fait toutes les tâches là en dedans. Là,
Moi, puis lesquelles on peut témoigner de ce que tu es en train de dire là. C'est une des choses importantes quand tu décides d'arrêter de consommer et de commencer à faire du meeting dans les associations d'anonymes. Il faut que tu t'impliques.
T'as pas le choix.
Tu balayer la salle, mettre les chaises en rangée.
Dans le temps, on vide les cendriers quand
on cendriers ou. Ou même faire du café, être à l'accueil avec les gens. Je pense que c'est une des choses. Mais moi, ce qui me sidère ce qui me surprend dans ton témoignage, André, c'est que tu l'as fait tout seul. Ouais. Tu comprends? T'as décidé par toi-même. Parce que moi, quand je dis que pendant 30 ans, j'ai jamais pensé que j'étais un alcoolique, malgré que j'étais libre à l'encontre de toi, j'ai eu plus de misère. Tu sais, je te trouve extraordinaire dans le sens que t'as embarqué dans le programme sans vraiment l'aide de d'autres.
La seule aide, ça a toujours été l'aide de mon créateur.
C'est ça, je m'en allais dire.
Qu'est-ce qui t'a amené à cette foi-là?
C'est ton
éducation?
En arrêtant de consommer, à un moment donné, ton coco, là, il réagit, lui. Là,
il dégèle.
Faut qu'il fasse de quoi dans ta tête? T'as toujours un mode de pensée, à un moment donné... Quand t'as panté pendant X nombre d'années, contamination, en tout cas, toutes les pantées négatives que je pouvais avoir...
Que tu savais pas que c'était négatif.
Tu pensais... Que je savais pas que c'était négatif. On peut laisser...
Un doute,
là. Quand tu décides d'aller faire un hold-up, là, tu sais que t'es pas bien, là.
C'est ça. Ouais, t'es conscient.
Mais je veux dire...
La consommation te passe par-dessus ça.
C'est ça, la consommation moi, m'a amené à faire des affaires que j'aurais jamais faites à jeun, là. Ça veut dire, foncièrement, moi, j'étais un gars qui est pacifique, j'aime les gens, pis tout, pis j'étais complètement le contraire, là,
en consommation.
Dans ma consommation.
Mais ça, tu le savais pas que t'étais comme ça dans le temps. Tu le sais maintenant parce que t'es en rétablissement.
Oui.
Pis je vois bien que t'es une bonne personne, t'as le cœur sur la main et tout. La manière que tu t'exprimes, la manière que tu parles depuis que je t'ai rencontré. Fait que ça fait même pas une demi-heure. Mais il reste toujours que, quand on décide d'arrêter, on sait pas qu'on va devenir la personne qu'on était censé être. Comme moi, je disais tout le temps, j'en parle souvent avec mon collaborateur Eric L, j'en parle souvent que moi, quand je suis sorti de prison, j'ai fait un an et demi, tu veux pas le dire à tout le monde que tu rencontres que tu as fait de la prison parce que t'es pas trop fier de ça, peu importe la raison pourquoi tu l'as fait, puis t'en parles pas, fait que tu développes comme un deuxième personnage qui fait que tu agis devant les gens pour pas que les gens découvrent que tu as fait de la prison. Donc, moi, ça a aidé à ma consommation. Ça a amplifié ma consommation pour me faire ce personnage-là. Puis ce personnage-là, bien, il consommait. Moi, c'est un peu de la manière que je réalise que dans mon cheminement, je me suis aperçu que j'étais un autre homme que celui que je suis. Parce que des fois, je me lève le matin. Là. Robert Piché, je l'aime pas, ce Robert Piché-là qui est abstinent puis qui gère ses émotions à foi et tout. Tu sais, mais il reste toujours, j'ai une méthode, j'ai des étapes, j'ai une garde rapprochée, donc Eric elle fait partie. Si ça va pas, j'appelle, on se parle, puis ça me remet dans le droit chemin où je suis mes étapes, je lis ma documentation des associations anonymes. Mais il reste toujours, c'est pas un concept qui est facile. Puis en dedans.
Mais en dedans, c'est qu'à un moment donné, pour finir, c'est. Il offre des programmes en dedans pour acquérir des outils.
Puis le mot est exact. Le mot est exact, c'est des outils qu'il faut que tu acquières.
Il faut que tu acquières des outils. Puis, on sait qu'en dedans, tu vois, beaucoup de gens font des programmes de reculons, parce que soit ça va toucher leur paye, soit ça va toucher...
N'importe la raison.
C'est que ça lui donne quelque chose
moi,
de faire ça.
Tu sais, qui est arrivé dans mon cas, tu sais, que le petit gars qui était toujours à farmer, puis,
je me suis
investi, moi, dans ces programmes-là.
OK.
Je suis allé chercher des outils.
Mais c'est pas facile de prendre cette décision-là, Parce que faut... Je sais, je suis peut-être un petit peu tannant, là, mais il reste toujours que c'est pas facile. Non, là, aujourd'hui, tu en parles avec aisance, puis ça fait plusieurs années que tu es abstinent et tout, mais il reste toujours, quand tu es dans ta consommation, tu es dans ton actif et tu décides d'arrêter, aller chercher tous les principes que tu nous parles. Moi, c'est toujours la base de celui qui nous écoute présentement au balado, qui ne sait pas qu'il y a un problème de consommation. C'est ça que j'essaie de ressortir. Comment tu es venu à croire qu'il y a quelque chose de plus grand que toi, qui est la deuxième étape, aller te redonner la raison,
oui,
sans avoir les outils vraiment. C'est bien beau de dire que moi aussi, j'ai des outils, mais comment ça fait qu'à 50 ans, j'ai appris que j'étais un hypersensible, un patient excessif? Tu comprends-tu? J'étais 50 ans à gérer ça sans savoir que j'avais à gérer ça. Puis ça n'aidait pas à ma consommation. Puis le lendemain de veille que je me levais magané, mais je continuais d'être ce gars-là. Puis je passais pour un chialeux, tu comprends? Mais dans le fond, aujourd'hui, après 22 ans d'abstinence, le monde me dit, ben, on avait, tu sais, mes anciens collègues, des fois, je travaillais avec des collègues qui ne me connaissaient pas. Puis, on a entendu parler de toi, t'étais un chiolu. Ça fait 4 jours que je parle, que je travaille avec toi, puis t'es pas si chiolu que ça. Mais je m'aperçois que moi, c'est ça que ça a fait, mon arrêt de consommation, d'embarquer dans le programme.
Ça
m'a ramené le gars que j'étais, comme toi, tu disais tantôt, le petit gars passionné qui avait des passions, puis qu'à un moment donné, t'oublies ces passions-là.
Oui, bien, t'oublies, tu les mets de côté, veux pas, à cause de la contamination. Mais pour revenir à ta question, moi, en tant qu'Autochtone, bon, j'avais une fraternité. Le Brotherhood, qui ont fini par changer de nom pour le cercle du mieux-être, c'est qu'on avait des aînés qui venaient de l'extérieur, puis...
T'avais des guides.
Oui, tu sais, puis ben, je me confiais à eux autres.
Comme on les appelle les anciens, je pense, hein?
Oui, bien, on dit les aînés.
Les aînés, maintenant, OK. Les aînés,
ouais. C'est des personnes qui sont en relation d'aide...
Okay. Dans ta communauté.
Dans ma communauté, okay. Puis aussi en dedans des murs. Mais en dedans des murs... Tu sais, il a fallu que je commence à faire confiance au système. Moi, j'étais révolté. Moi,
carcéral,
puis aussi, ben, le
tous les programmes qui t'offraient.
Toujours en parlant aussi des alcooliques. Chaque fois que je faisais de meeting, moi, je me suis fait un parrain en dedans, puis aujourd'hui, c'est encore mon parrain, là, 19 ans plus tard.
Finalement, au flux, tu t'ouvres l'esprit. Puis tu lâches prise.
Exact.
Mais c'est un peu le but de la deuxième étape.
Ben, c'est ça,
là. Il faut que tu laisses les préjugés de côté.
C'est ça.
Puis il faut que tu décides un jour ou l'autre de faire foi à une méthode qui fonctionne.
Exact.
Statistique à l'appui.
Avec sincérité et honnêteté.
C'est les deux principes.
Tu peux pas avancer.
Ouais, mais aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, là, être sincère, ben être honnête.
C'est envers toi-même.
Envers toi-même. Mais tu le sais-tu? Que t'es pas honnête envers toi-même. On parle pas de... Non, mais ce que je veux dire, pas un crime que t'as fait. C'est sûr, un crime comme moi, quand je suis allé chercher ma dope en Jamaïque, je savais même trop dans le fond de moi-même. C'était pas correct ce que je faisais. Mais la consommation m'a fait dire que c'était correct ce que je faisais. M'a permis de l'accepter, de me le déculpabiliser, ni plus ni moins, de ce que j'étais en train de faire. Tu comprends? Puis c'est aujourd'hui, comme tu disais tantôt, c'est ça que j'ai réalisé. Mais à venir à croire qu'il y a quelque chose de plus grand que toi peut te redonner la raison. Quand t'as une bonne job, t'as une bonne situation, tu sais, puis que t'es comme alcoolique responsable, dans le fond, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs qu'aujourd'hui, ils travaillent de tous les jours, puis ils consomment, puis ils pensent que c'est normal. Puis vu qu'ils payent l'épicerie, vu qu'ils payent l'hypothèque, vu qu'ils payent, tu sais, vu qu'ils payent les études à leurs enfants, ils pensent qu'ils sont comme, ils ont comme la permission de consommer parce qu'ils sont responsables envers ceux qui les entourent. Mais dans le fond, il n'est pas honnête avec lui-même parce qu'il sait bien trop qu'il pourrait faire exactement la même chose sans consommer. Mais il y a une pression là-dedans qui embarque. La pression de réussir, la pression d'être meilleur que le voisin. Tu comprends? Il n'y a pas du gain. L'avidité, ces choses-là embarquent. On est dans un milieu aujourd'hui, dans la vie qu'on vit aujourd'hui, que c'est important, on dirait, le coût à la performance.
Puis tu te compares aussi.
Tout le temps.
Dans tous les domaines de ta vie.
Ouais.
En tout cas, je parle pour moi.
Je me
compare tout le temps. Là.
Encore aujourd'hui, tu compares.
Bon, j'essaie que non. Mais des fois, lui est meilleur que. Parce que moi, quand j'étais dans Gamic, dans les années que j'étais dans Gamic, je me suis battu pour toujours être le meilleur.
Ouais.
Fait que j'ai encore ça, moi, même dans mon rétablissement, j'ai encore comme toi en dedans, André. Fallait que tu sais, pour pas te faire piler dessus, pour pas te faire écraser, faut le tour soit le meilleur. Mais c'est pas évident, ça. C'est pesant, c'est fatigant. Il faut toujours. Puis en dedans, ça doit pas être. Moi, j'ai pas été aussi longtemps que toi, là, parce que Mais c'est pas évident dedans, là. Non, moi, non, comme Robert dit, ta force, là, de caractère. En tout cas, je vais te laisser aller, mais...
Parce que moi, je réalise aujourd'hui, après mon 22 ans d'abstinence, que je suis le même gars que j'étais dans ma consommation que je suis aujourd'hui dans ma non-consommation. C'est peut-être ça que les gens ont peur un peu de découvrir qu'ils ont un problème de consommation. Moi, j'ai été obligé de changer mon comportement et je ne serai pas le même homme. Ouais. Dans le fond, tu es le même homme, mais ton comportement a changé.
Exact.
Hein? C'est un peu ça qui fait peur aux gens, je pense. Puis toi, Éric, comment t'en es venu dans la deuxième étape? Comment tu l'as vu, cette deuxième étape-là, quand t'as commencé à t'impliquer?
Moi, comme je disais, ma deuxième étape, j'ai toujours cru qu'il y avait une force plus grande que moi. Dans ma vie, là, tout le temps, mes parents étaient catholiques. Ils étaient pratiquants quand j'étais jeune. Là, mais tu sais, j'ai pas connu un Dieu vengeur, ces choses-là. Une puissance. Fait que j'ai toujours.
Vengeance, qu'est-ce que t'entends par
exemple? Ben, un Dieu vengeur, tu sais, on entendait ça dans le temps, là. Si tu fais telle affaire, telle action, tu vas aller en enfer, puis, tu sais, c'était des dieux vengeurs.
Il y en avait des crimes pour aller en enfer.
Ouais, ben, c'est ça, puis c'était vraiment. Des fois, c'était ridicule. Mais à toutes les fois que je sortais de prison, moi, quand j'étais dans chenoute, là, je vais dire ça de même, là, mon Dieu réapparaissait. Là, je priais. Toujours quand j'avais des épreuves, je priais. J'allais en dedans, je priais. Quand je sortais, là, j'oubliais mon Dieu.
Qu'est-ce qui faisait que tu priais?
Ah, ben, je croyais. Vu que je croyais. Parce qu'à toutes les fois, je sortais.
Mais tu viens-tu d'une famille catholique?
Oui, oui, oui.
C'est vous pratiquant?
Ouais, ben, quand j'étais jeune.
C'est ça, quand j'étais jeune, on l'a mis à tous les dimanches.
Après ça, on a arrêté.
Oui.
Mais je croyais quand même qu'il y avait quelque chose. Fait quand j'étais dans le trouble, je vais dire ça comme ça.
Donc, tu dis que t'as arrêté de pratiquer la religion catholique.
Oui, oui. Mais j'étais croyant.
Là, tu peux faire une différence entre la religion catholique et Dieu.
Oui.
Ça n'a rien à voir, dans le fond.
Du tout. Moi, c'est spirituel, là.
C'est pas catholique, notre affaire. Hein?
Non, je viens de la religion catholique, mais je me suis créé mon propre Dieu.
OK.
Ça, c'est moi, ma propre force supérieure.
Comme ils disent dans la documentation des associations.
C'est ça, tu sais, ça peut être la nature, ça peut être n'importe quoi.
Comme tu le conçois.
C'est en plein ça. Il y en a qui prennent des gens qui sont décédés, qui...
Il y en a que c'est même le programme lui-même.
Carrément.
Ils ont confiance au programme. Mais la base, c'est de s'ouvrir, comme tu disais tantôt, mentalement, et donner une chance au programme de fonctionner.
Puis l'important, c'est que ton Dieu, ça ne soit pas un être humain.
Ouais.
Tu sais, parce qu'il n'y a aucun être humain qui est Dieu.
Ah non, parce que tu vas devenir une secte. Tu vas le prendre pour un gourou. C'est pour ça, encore une fois, dans la documentation, qu'il parle qu'on n'est pas une secte.
C'est ça. Puis moi, tout ce que j'ai fait, je m'en sortais tout le temps. Prison, psychiatrie, thérapie. Puis, tu sais, quand je
sortais parce que.
Ben,
parce que tu priais.
Ben ouais, je pensais
que tu demandais d'une manière sincère.
C'est ça. Fait que je m'en sortais, là, je reconsommais. Tu sais, je suis décédé, je suis revenu. Fait que toutes ces épreuves-là, puis je me suis vendu l'idée, regarde, je suis mort une fois, ils vont me sauver une autre fois. Puis, tu sais, je pensais qu'à toutes les fois, j'étais dans le chenoute à force de prier. Mais je comprenais pas que j'étais alcoolique toxicomane, là. J'ai jamais compris ça. Mais je crois aujourd'hui que mon Dieu, ben, ma puissance supérieure m'a suivi toute ma vie. Parce que je ne serais pas supposé d'être
parce que
là.
Tu y croyais.
Oui.
Parce que tu avais la foi.
Oui, carrément. Comme donc, André, là, donc, il serait supposé être en dedans encore.
Donc, après tes 13 thérapies, les 12 premières, tu les as faites pour les autres.
C'est
la 13e que tu as fait pour toi, tu as recommencé dans le programme.
Oui.
Tu t'es aperçu que la première étape, ça t'allait bien.
C'est ça.
Là, tu as vu que la deuxième étape, tu avais comme, je ne sais pas, des exemples ou des manières de vivre qui t'avaient. C'est là que tu as fait ta réflexion de dire, ben.
Moi, je suis allé 9 jours l'an passé en prison. Je ne dirais pas pourquoi, mais je me suis retrouvé là. Puis la première journée que je suis rentré, sur 24, je suis tout seul qui ne consomme pas. Fait que, tu sais, 14 heures...
T'es 14 heures 24 dans le bloc cellulaire?
Ouais, dans le bloc, okay. Là, dans Wing, là, on était 24. Okay. Je suis tout seul qui ne consomme pas. Je suis 14 heures par jour, ben, de la nuit, avec un gars qui consomme. Je me suis tout de suite mis à genoux. Mais là, sincère et honnête. Là, j'ai dit, garde, sors-moi d'ici, s'il te plaît, là. Puis je consommerai plus, là, une journée à la fois. Puis j'étais tellement sincère.
C'était pas une promesse d'ivrogne comme on a toujours fait.
Du tout. C'est la première fois que j'ai été honnête et sincère.
Comme celui qui essaie de s'en sortir, puis il lit la première étape avec une certaine légèreté, puis fait plaisir à sa femme, fait plaisir à son père.
C'est ça.
Fait plaisir à son père, puis à un moment donné, il rechute.
C'est ça.
Comme
dans ton corps. Quand j'ai fait ça. Puis comme tu dis, là, tu sors, mais il faut que tu t'impliques. Moi, je suis rentré dans les associations anonymes. Tu t'impliques, ces choses-là. Mais c'est la première fois que j'étais honnête.
Honnête et sincère.
Et sincère, puis garde. Puis
et quand, c'est tu honnête, quand tu deviens honnête et sincère, qu'est-ce qui se passe en dedans de toi?
Ben, moi,
comment tu fais pour savoir que cette fois-là, tu es vraiment honnête et sincère à l'encontre des autres fois que tu pensais que tu l'étais, honnête et sincère?
Bien, la seule chose, je vais laisser la place à André après. Moi, là, quand je me suis mis à genoux la première journée, je suis rentré en dedans l'année passée, j'ai demandé de m'enlever la soif. Arrêter de consommer, tu sais, j'avais plus... dans une couple de minutes après, parce que les gars consommaient, là, ils me l'ont fait, là, de la drogue, de l'alcool. Non, pas le goût du tout. Du tout.
T'as même pas eu envie d'être comme one of the gang?
Pas en tout. pas en tout, tandis que les autres fois, j'étais allé en dedans, ben là, je consommais tout le temps. Je voulais pas arrêter. Mais là, j'avais même pas le goût. Il y en a qui m'ont fait des pilules. Non. Tu sais, je me suis pas battu.
La foi?
Oui, carrément.
Comme quoi, il y a quelque chose de plus grand.
Un réveil spirituel.
Ah, un réveil spirituel.
Carrément.
Une expérience spirituelle.
Une expérience spirituelle.
Ça va t'amener peut-être à un réveil plus tard.
Oui, c'est ça. C'est une expérience. Puis quand j'y repense aujourd'hui, j'en ai eu des expériences spirituelles. Je suis décédé, je suis revenu. Tu sais, j'étais allé en psychiatrie, je suis revenu. Tu sais, je pourrais être encore en psychiatrie, je pourrais être dans une place comme ça.
Tu serais peut-être mort.
Aussi.
Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui te guide. Il y a quelqu'un qui croit en toi quelque part.
C'est ça.
Qui est plus grand que toi.
C'est ça. Puis je crois que pourquoi je suis encore ici aujourd'hui, c'est justement pour tendre la main à un nouveau, donc quelqu'un qui souffre. Des associations.
Ouais, c'est sûr que ça fait partie un peu de
c'est
ça.
C'est ça. Moi, je crois
compter,
ça.
Il faut compter notre cheminement et montrer aux gens pourquoi qu'on s'en est sorti.
C'est ça.
C'est pas un coup de chance.
Non, c'est pas un front, mettons.
C'est une méthode qui a été prouvée depuis 1935.
C'est ça.
Puis on y croit, cette méthode-là. Mais y croire, c'est pas toujours facile. Qu'est-ce que t'en penses, toi, André? Y croire, c'est pas toujours facile. Il faut vraiment que tu t'ouvres. Toi, dans ton cas, toi, c'était le créateur. Tu as eu foi en ton créateur dû à ton éducation, mais je pense que les gens qui nous écoutent, ils ont tous un petit passé un peu spirituel ou catholique, voilà. Ou peu importe comment tu peux l'appeler.
Ben moi, je pense c'est que tant que la personne n'a pas atteint le bas fond, le bas fond, le profond, là, tu sais que tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus rien, décide à un moment donné de te mettre à genoux et dire à lui en haut, aide-moi, là, je suis pas capable tout seul.
Ben, d'accord.
Mais ça, avant ça, il faut que tu fasses la première étape pour dire que tu as un problème de consommation.
Faut que tu reconnaisses que tu es un alcoolique.
C'est ça.
Tu comprends?
Parce que
du moment où la première étape est faite, là, tu es prêt à porter à ta deuxième étape.
Ah oui, c'est ça. Puis cette première étape-là, ça se fait pas dans la première semaine. Là.
Non, mais
comme
toi, à un moment donné...
Ça t'a pris un bout de temps avant d'y arriver.
Ben, comme j'ai dit au début de
l'émission. Comme tout le monde.
Quelques années.
T'sais, moi, ça m'a pris 10 ans. Personnellement, ça m'a pris 10 ans d'abstinence pour arriver à dire que oui, je vais faire la première étape. Tu vois?
Exact. Moi, ça l'a pris, que je me réveille en cap-meux, puis... tu sais, que je vois plus l'espoir de sortir.
T'étais vraiment dans le fond.
J'ai vraiment perdu la maîtrise de ma vie. Là,
c'est dû à la consommation. Tu as compris, c'est dû à la consommation.
Moi, je l'ai compris, il fait longtemps. Là. C'est quoi de perdre la maîtrise de ma vie? Là.
Bon, mais les gens qui nous écoutent, là, ils sont pas allés jusque-là. Tu comprends? Comment ils font, eux autres, pour comprendre leur bas-fond? Il est où, leur bas-fond?
Ben, leur bas-fond,
un divorce, c'est une perte d'emploi...
moi, je peux pas
d'argent dans le compte en banque?
Ben, c'est différent pour tout le monde.
C'est différent pour tout le monde, tu sais. Ça peut être celui qui a bien de l'argent, qui se ramasse avec plus rien.
C'est ça.
Il atteint son bas fond. Ça peut être une autre personne qui.
Ça peut être un décès.
Bon, il y a des problèmes relations avec les collègues de travail. Il pense toujours que c'est la faute des autres. Dans le fond, c'est lui qui est le problème.
C'est ça.
Mais moi, je parle pour moi. C'est qu'il a fallu que je réalise que j'avais complètement perdu la maîtrise de ma vie pour pouvoir accéder. Me forcer à me mettre à genoux et dire à lui en haut, « Hey, donne-moi un coup de main, enlève-moi la soif, enlève-moi le goût de consommer. »
Faut vraiment
que j'arrête ça là, je ferme les lumières drette là.
Ah ouais.
Moi, ça a été mon bas-fond, là.
Toi, quand tu t'es rendu là, t'avais-tu le goût de mourir?
Oui.
Tu passais au suicide, j'imagine, rendu là.
Je voulais plus continuer
c'est
à vivre en quatre murs.
C'est ça.
J'étais saturé, là.
Même ta consommation ne te permettait plus d'accepter ta situation.
Non, parce que j'avais plus aucun réconfort, si on veut.
Mais les gens qui nous écoutent, je pense, vous êtes d'accord avec moi, que sont en train de penser à ça présentement.
Ben
ceux qui nous écoutent, qu'ils sont peut-être rendus au bout, puis ils savent pas que la consommation est la cause, puis ils savent pas comment s'en sortir présentement, malgré que toi, tu l'as eu difficile, ton bas fond, parce que tu es enfermé. Mais il reste toujours qu'il y a du monde, comme je disais tantôt, vivent en liberté et sont enfermés dans leur tête.
Oui, ben oui, c'est sûr. Là.
Parce qu'on en rencontre encore des nouveaux qui arrivent.
Moi, dire plus fort que ça. Moi, je suis rendu que je dis qu'il y a un quatrième chemin. Là. Il y a trois chemins là, qui mènent, qu'on a dit au début. Là. La mort, la prison, la folie ou la mort. Mais moi, je vous dis, il y a un quatrième chemin, puis. C'est de se rétablir dans l'alcoolisme.
Ah, t'as raison. Wow. Ouais, ça, c'est bien
ça,
dit.
Ça, on l'oublie souvent de le dire. C'est que faut que tu fasses un effort à un moment donné pour pouvoir t'en sortir.
C'est ça.
Tu
peux même appeler te laisser tomber tes anciens chums, même t'amener à un divorce que t'es dans une relation toxique ou peu importe.
Moi, aujourd'hui, je suis dehors, là, puis moi, mes amis à moi, là, c'est tous des membres AA.
Ouais.
Je suis entouré, moi, de membres AA. J'ai plus personne de négatif alentour de moi.
Puis toi, André, oui, ton rétablissement que tu as fait en dedans, c'est pour ça que tu es dehors aujourd'hui.
Ben oui.
Sinon, tu seras encore en dedans.
Je serai encore en dedans.
C'est ton rétablissement qui a fait que tu vois la
lumière aujourd'hui. J'en ai plein de gens, moi, là, qui ont eu la même vie que moi en dedans.
C'est ça.
Sauf qu'ils n'ont pas pris le même chemin que moi, puis qui sont encore en dedans aujourd'hui, là.
Mais à travers tout ça, t'en es venu à avoir la foi.
Ben, j'ai eu la foi,
pour accepter la deuxième étape, vous allez voir un peu les auditeurs, ils vont s'apercevoir à travers les prochaines semaines qu'on va parler des prochaines étapes. Puis il y a une suite chronologique, hein? Faut que tu fasses la première, comme
c'est
tu
ça,
disais tantôt.
La première, la deuxième.
Puis tu peux pas faire la quatrième avant de faire la deuxième.
Exact.
Faut que tu fasses la première, la deuxième. Ben, mais moi, ce qui m'épate dans ton cheminement, c'est que c'est vrai que tu es allé dans ton bas-fond, qui peut être un bas-fond pour tout le monde, dans le fond. Pas nécessairement se ramassant de quatre murs, mais
non.
Ça peut être un bas-fond dans le monde libre. Puis dire, qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de mon bas-fond que j'ai présentement, que je ressens, ou la boule dans l'estomac que j'ai, que je suis pas capable de sortir. Je suis marié avec une femme que j'aime, j'ai des beaux enfants, j'ai une bonne job, mais il y a quelque chose qui marche pas dans ma vie parce que tu n'es pas porté à dire, ça doit être ma consommation. Parce que la consommation, tu veux pas arrêter.
C'est une béquille, finalement.
Non, c'est une béquille, puis tu ne veux pas arrêter, parce que c'est ce qui t'a permis de te rendre où ce que tu es rendu, passer à travers, être, comme je disais tantôt, être une autre personnalité sur la consommation.
Mais ça, c'est une maladie progressive, hein?
Ça.
On le dit, ça, là.
Ouais, ils disent que ça prend 15 ans pour former un alcoolique.
Les premiers temps là, que tu consommes, moi, je me souviens, là, mes premières consommations, là, j'avais du plaisir.
Ben,
là.
Oui.
On a tous du plaisir qu'on consomme.
Durant des années.
Ben, en dernier, là, oublie ça, là, t'as plus des yaou-yaou, là. T'étais carrément ma survie. J'arrêtais de consommer, j'étais sûr, j'étais pour mourir.
Moi, je sais que les dernières années que j'ai consommé, même si j'étais dans un party, je me ramassais quasiment toujours tout seul dans un coin.
C'est ça.
Oui.
Parce que je voulais rien savoir des autres. Tout ce qui m'importait, c'est de consommer. Pour oublier cette dureté de la vie, les plus ou moins, ou tout le stress que j'ai passé, ou mon temps de prison que je ne voulais pas parler parce que je ne voulais pas faire découvrir au monde le vrai Robert Piché parce que celui-là, je ne l'aimais pas, ou j'avais honte d'avoir fait de la prison malgré que j'acceptais le fait que je n'avais fait. Tout ça mélangé ensemble, ça augmente ta consommation.
Oui.
Tu parlais de chronologie dans les étapes. Moi, pendant des années, je croyais à une force supérieure, mais je n'avais pas fait ma première étape.
Ah ouais.
C'est pour ça que je continuais. J'ai toujours... Tant que ta première étape, que tu n'admets pas que tu es impuissant devant une substance, ou puis que tu as perdu la maîtrise de ta vie, tu vas toujours...
Mais quand on parle de perdre le contrôle de sa vie, c'est que la substance prend le contrôle de
c'est
ta
ça,
vie.
C'est ça, ça veut pas dire que... Parce que, tu sais, il y en a qui restent fonctionnels.
Pas capable de rencontrer tes...
C'est ça. Puis t'es pas obligé de perdre ta job, t'es pas obligé de... C'est que
divorcer,
c'est ça, t'es pas obligé d'arriver à être dans la rue, ces choses-là. C'est un vide intérieur. Puis, t'as la mort dans l'âme. Même si t'as tout, des fois, dans la vie, t'as la mort dans l'âme. T'es plus bien parce que la consommation. T'es pas capable d'arrêter de consommer. Puis, quand tu consommes, ben, ça te tente plus.
Autrement dit, ce qu'on est en train de parler dans ce balado-là, présentement, là, je le réalise en écoutant vos deux témoignages, c'est qu'on donne aux gens, présentement, une méthode de se sortir qui peut aller jusqu'au suicide.
C'est ça.
Hein? Ben,
puis,
c'est quand
en
même,
prison.
C'est quand même fort. C'est...
Ben, j'en connais plein de gens, là. Ils ont préféré se donner à mort. Que
peut-être
plutôt...
pas préféré, mais ils ne savaient pas qu'il y avait une alternative.
Ils
ne
savaient pas là, comment t'en sortir. Puis ça aurait pu m'arriver, moi, tout. Je veux dire, je ne suis pas meilleur qu'un autre parce que moi, j'ai réussi à m'en sortir.
Moi, par contre, je ne suis jamais venu à cette idée-là. Pourquoi je me suis suicidé? Ça ne m'a jamais amené à l'idée.
Ben...
Mon bas fond, j'ai peut-être jamais obtenu mon vrai profond parce que j'ai arrêté avant.
Exact.
Peut-être. J'avais un entourage que... Moi, ce qui m'a sauvé surtout, c'est l'amour de ma mère. Ma mère avait un amour inconditionnel. Elle est venue visiter. Moi, j'ai fait mon temps aux États-Unis. Elle est venue visiter, puis elle a pleuré comme une madeleine les 5 premières minutes qu'elle m'a vue dans sa première visite. Puis j'ai dit, c'est pas de ta faute, maman. C'est moi le con qui s'est mis là-dedans, que sa consommation.
Ah ouais.
Mais encore là, je pensais pas que c'était la consommation qui m'avait mis là.
Mais ton bas fond t'amène pas nécessairement à vouloir te suicider.
C'est ça.
C'est ça la différence.
Ça.
Moi, ça m'a amené là. Lui
c'est
aussi,
ça,
on a eu la pensée.
Jusque-là, mais
c'est ça.
À qui ça va jusque-là?
C'est ça.
Puis comme je pense que vous êtes assez expérimenté dans le milieu des associations anonymes, comme moi aussi, j'en ai vu des amis proches qui sont allés jusqu'au suicide.
C'est ça.
Puis je suis arrivé en retard pour les aider.
Exact.
Parce que je leur avais déjà donné de l'aide, finalement.
Ben,
j'étais arrivé en retard, sans être ma faute. Je ne voulais pas pour ça, mais c'est les circonstances de la vie qui a fait ça. Mais c'est comme vous avez dit, chaque bas-fond n'est pas pareil. Mais il reste toujours qu'il y a le côté consommateur responsable. La majorité des gens, je pense, sont comme ça. Hein? Sont responsables parce qu'ils réussissent à payer leurs dettes, payer leurs obligations, s'occupent de leurs enfants.
Pas André, non, là.
Non, mais c'est ça. Non, non, mais il y a une certaine catégorie, comme vous autres.
C'est que tu n'es pas obligé de te retrouver à avoir la mort dans l'âme, à faire de la prison ou de la psychiatrie pour réaliser que tu es alcoolique.
C'est ça. Ou carrément. Ton bas-fond n'est pas obligé de t'emmener jusqu'au suicide.
C'est ça.
Tu peux le réaliser avant.
Oui, c'est ça. Puis tu peux... Tu peux aussi t'en sortir là, avant d'atteindre le bas-fond absolu.
C'est pour ça que les associations anonymes, qu'on a une méthode supportée par les 12 étapes, et c'est le sujet de notre balado présentement.
C'est pour ça aussi que les nouveaux sont vraiment importants, et pour les vieux membres, et pour lui-même.
Ah, ça, c'est important ce que tu viens de dire. Les nouveaux, quand ils rentrent pour la première journée dans un meeting, on leur donne la main. Ils te remercient tout le temps de l'avoir accueilli, mais dans le fond, ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu es content de l'avoir accueilli toi-même.
Ben oui, parce que toi, ça te ramène...
Ça te ramène où ce que tu étais au début.
Où tu étais, tu sais, puis...
Puis là, tu as envie de l'aider, qui est la 12e étape qu'on parlera à la 12e émission du balado.
C'est pour ça que dans les associations, on parle de rétablissement d'une journée à la fois, parce que le temps n'a aucun rapport. Un nouveau qui arrive aux nouvelles, avec un ancien qui fait des années qui est dans le mouvement, regarde, c'est pour ça qu'on parle du « nous ». Puis c'est un amour inconditionnel dans les associations.
Ah oui, t'es toujours bien accueilli, puis t'es toujours la main donnée. Puis
Tout le temps. Puis ça, c'est partout dans le monde. Ouais. Tu sais, c'est pas juste au Québec ou au Canada. Là. T'es bien accueilli dans n'importe quelle langue, partout où il y a du meeting.
Moi, j'ai fait un peu de meeting, moi aussi, à l'international. Puis des fois, je rentrais à des places que je parlais même pas la langue du pays.
C'est ça.
Puis ça se passait dans la langue du pays, mais tu savais exactement ce qui était rendu dans leur cheminement, dans le déroulement du meeting, parce que ça se passe exactement de la même manière. Écoutez, messieurs, ça a passé vite 1 heure, hein? C'est pas croyable quand on parle des vraies affaires et qu'on parle vraiment de notre cheminement personnel et qu'on fait confiance, comme la deuxième étape nous dit, d'avoir la foi en quelque chose de plus grand que nous, tel qu'on le conçoit. Puis faites-vous-en pas, chers auditeurs, dans le déroulement des balados, vous allez vous apercevoir que tout ça se tient. Peut-être vous êtes un petit peu mélangé aujourd'hui, mais vous allez voir que tout ça se tient. On a la preuve vivante avec André Elbé aujourd'hui, qui nous a donné un très beau témoignage. J'aimerais bien te remercier. Puis toi, mon fidèle collaborateur, Éric L., je te remercie encore une fois d'être là aujourd'hui à mes côtés.
Ça fait plaisir, Robert.
Puis m'épauler là-dedans, parce qu'on sait tous que notre base de tout ça, c'est d'aider celui qui souffre.
C'est ça.
Puis c'est un peu la raison de ce balado, tu sais. Puis je vais finir, je pense, avec une prière que vous connaissez très bien, la prière de la responsabilité chez l'alcoolique, des associations anonymes. Ce qu'on dit souvent à travers les meetings, puis la raison d'être de notre programme, à la base de notre programme, c'est tout à fait ça, d'être responsable. Donc, la prière, celui de même, je suis responsable. Si quelqu'un, quelque part, tend la main, puis c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui est arrivé dans nos cas, si quelqu'un, quelque part, tend la main en quête d'aide, parce qu'il faut que tu demandes de l'aide à un moment donné, tu n'as pas le choix. Je veux que celle des AA, les associations anonymes, soit toujours là. Et pour cela, je suis responsable. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui encore une fois. Fait que je vous remercie encore, chers invités, d'avoir été présents. Et j'aimerais aussi remercier Nathalie Barrette, qui est à la recherche, Mathieu Tessier, qui est notre régie, notre fameux Richard, le patron que je l'appelle, Gerly Homerlet, qui est le chef du contenu numérique, Jean-Sébastien Laliberté, notre chef de diffusion technique, Félix Lapointe, qui est le directeur du Canal M. Et j'aimerais vous remercier tout le monde d'être là. Et la prochaine fois, la troisième étape, la semaine prochaine, on a un autre invité.
C'est une femme.
Qui va nous discuter à propos de la troisième étape, comment elle a vécu ça. Et donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.